Les frères Karamazov, livre 12, chapitre 5, brusque catastrophe. Il avait été appelé avant Alyosha, mais l'huissier informa le président qu'une indisposition subite empêchait le témoin de comparaître et qu'aussitôt remis, il viendrait déposer. On n'y fit d'ailleurs pas attention et son arrivée passa presque inaperçue. Les principaux témoins, surtout les deux rivales, étaient déjà entendus. La curiosité commençait à se lasser. On n'attendait rien de nouveau des dernières dépositions. Le temps passait. Yvan s'avança avec une lenteur étrange, sans regarder personne, la tête baissée, l'air absorbé. Il était mis correctement, mais son visage, marqué par la maladie, avait une teinte terreuse et rappelait celui d'un mourant. Il leva les yeux, parcourut la salle d'un regard trouble. Alyosha se dressa, poussa une exclamation, mais on n'y prit pas garde. Le président rappela aux témoins qu'il n'avait pas prêté serment et pouvait garder le silence, mais devait déposer selon sa conscience, etc. Yvan écoutait, les yeux vagues. Tout à coup, un sourire se dessina sur son visage, et lorsque le président, qui le regardait avec étonnement, eut fini, il éclata de rire. « Et puis, quoi encore ? » demanda-t-il à haute voix. Silence absolu dans la salle. Le président s'inquiéta. « Vous êtes encore indisposé, peut-être ? » demanda-t-il en cherchant du regard l'huissier. « Ne vous inquiétez pas, Excellence, je me sens suffisamment bien, et puis vous raconter quelque chose de curieux. » répondit Yvan d'un ton calme et déférent. « Vous avez une communication particulière à faire ?» continua le président avec une certaine méfiance. Yvan Fiodorovitch baissa la tête et attendit durant quelques secondes avant de répondre. « Non, je n'ai rien à dire de particulier. » Interrogé, il fit à contre-cœur des réponses laconiques, pourtant assez raisonnables, avec une répulsion croissante. Il allégua son ignorance sur bien des choses et ne savait rien des comptes de son père avec Dmitri Fiodorovitch. « Je ne m'occupais pas de cela, » déclara-t-il. Il avait entendu les menaces de l'accusé contre son père et connaissait l'existence de l'enveloppe par Smerdiakov. « Toujours la même chose, » interrompit-il soudain d'un air las. « Je ne puis rien dire au tribunal. » « Je vois que vous êtes encore souffrant, et je comprends vos sentiments, » commença le président. Il allait demander au procureur et à l'avocat s'ils avaient des questions à poser, lorsque Yvan dit d'une voix exténuée « Permettez-moi de me retirer, Excellence, je ne me sens pas bien. » Après quoi, sans attendre l'autorisation, il se retourna et marcha vers la sortie. Mais après quelques pas, il s'arrêta, parut réfléchir, sourit et revint à sa place. « Je ressemble, Excellence, à cette jeune paysanne. Vous savez, si je veux, j'irai, si je ne veux pas, je n'irai pas. On la suit pour l'habiller et la conduire à l'hôtel, et elle répète ses paroles. Cela se trouve dans une scène populaire. « Qu'entendez-vous par là ? » dit sévèrement le président. « Voilà, » dit Yvan en exhibant une liasse de billets de banque. « Voilà l'argent, le même qui était dans cette enveloppe. » Il désignait les pièces à conviction. « Et pour lequel on a tué mon père. Où faut-il le déposer ? Monsieur l'huissier, veuillez le remettre à qui le droit. » L'huissier prit la liasse et la remit au président. « Comment cet argent se trouve-t-il en votre possession ? Si c'est bien le même ? » demanda le président surpris. « Je l'ai reçu de Smerdiakov, de l'assassin, hier. J'ai été chez lui avant qu'il se pendît. C'est lui qui a tué mon père. Ce n'est pas mon frère. Il a tué, et je l'y ai incité. Qui ne désire pas la mort de son père ? Avez-vous votre raison ?» ne put s'empêcher de dire le président. « Mais oui, j'ai ma raison. Une raison vile, comme la vôtre, comme celle de tous ces museaux. » Il se tourna vers le public. « Ils ont tué leur père et simulent la terreur, » dit-il avec mépris en grinçant des dents. « Ils font des grimaces entre eux, les menteurs. tous désirent la mort de leur père. Un reptile dévore l'autre. S'il n'y avait pas de parricide, il se fâcherait et s'en irait furieux. C'est un spectacle. Panem et circenses. D'ailleurs, je suis jolie, moi aussi. Avez-vous de l'eau? Donnez-moi à boire, au nom du ciel. » Il se prit la tête. L'huissier s'approcha de lui aussitôt. Alyosha se dressa en criant « Il est malade, ne le croyez pas, il a la fièvre chaude !» Catherine Ivanovna s'était levée précipitamment et, immobile d'effroi, considérait Ivan Fiodorovitch. Mitya, avec un sourire qui grimaçait, écoutait avidement son frère.
« Rassurez-vous, je ne suis pas fou, je suis seulement un assassin !»
reprit Ivan. « On ne peut exiger d'un assassin qu'il soit éloquent !» ajouta-t-il en souriant. Le procureur, visiblement agité, se pencha vers le président. Les juges chuchotaient. Fetioukovitch dressa l'oreille. La salle attendait, anxieuse. Le président parut se ressaisir. « Témoin, vous tenez un langage incompréhensible et qu'on ne peut tolérer ici. Calmez-vous et parlez, si vous avez vraiment quelque chose à dire. Par quoi pouvez-vous confirmer un tel aveu, s'il ne résulte pas du délire ?»
Le fait est que je n'ai pas de témoin. Ce chien de Smerdiakov ne vous enverra pas de l'autre monde sa déposition dans une enveloppe. Vous voudriez toujours des enveloppes. C'est assez d'une. Je n'ai pas de témoin. Sauf un, peut-être.
Il sourit d'un air pensif.
Qui est votre témoin?
Il a une queue, Excellence. Ce n'est pas conforme à la règle.
Le diable n'existe point.
« Ne faites pas attention, c'est un diablotin sans importance, » ajouta-t-il confidentiellement en cessant de rire. « Il doit être quelque part ici, sous la table des pièces à conviction. Où serait-il, sinon là? Écoutez-moi, je lui ai dit « Je ne veux pas me taire. » Et il me parle de cataclysmes géologiques et autres bêtises. « Mettez le monstre en liberté. » Il a chanté son hymne, car il a le cœur léger, comme une canaille ivre qui braille. Pour Pité est parti Vanka. Moi, dans 2 secondes de joie, je donnerai un quatrillon de quatrillons. Vous ne me connaissez pas. Oh, que tout est bête parmi vous. Eh bien, prenez-moi à sa place. Je ne suis pas venu pour rien. Pourquoi tout ce qui existe est-il si bête? Et il se remit à inspecter lentement la salle d'un air rêveur. L'émoi était général. Alyosha courait vers lui, mais l'huissier avait déjà saisi Ivan Fiodorovitch par le bras.
« Qu'est-ce encore ? »
s'écria-t-il en fixant l'huissier. Tout à coup, il le saisit par les épaules et le renversa. Les gardes accoururent, on l'appréhenda, il se mit à hurler comme un forcené. Tandis qu'on l'emportait, il criait des paroles incohérentes. Ce fut un beau tumulte. Je ne me rappelle pas tout dans l'ordre. L'émotion m'empêchait de bien observer. Je sais seulement qu'une fois le calme rétabli, l'huissier fut réprimandé, bien qu'il expliquât aux autorités que le témoin avait tout le temps paru dans son état normal, que le médecin l'avait examiné lors de sa légère indisposition, 1 heure auparavant. Jusqu'au moment de comparaître, il s'exprimait sensément, de sorte qu'on ne pouvait rien prévoir. Il insistait lui-même pour être entendu. Mais avant que l'émotion fût apaisée, une nouvelle scène se produisit. Catherine Ivanovna eut une crise de nerfs. Elle gémissait et sanglotait bruyamment, sans vouloir s'en aller. Elle se débattait, suppliant qu'on la laissât dans la salle. Tout à coup, elle cria au président.
« J'ai encore quelque chose à dire. Tout de suite, tout de suite. Voici un papier, une lettre. Prenez, lisez vite. C'est la lettre du monstre que voici, »
dit-elle en désignant Mitya.
« C'est lui qui a tué son père. Vous allez voir. Il m'écrit comme il le tuera. L'autre est malade, il a la fièvre chaude depuis 3 jours. »
L'huissier prit le papier et le remit au président. Catherine Ivanovna retomba sur sa chaise, cacha son visage, se mit à sangloter sans bruit, étouffant ses moindres gémissements, de peur qu'on ne la fît sortir.
Le papier en question était la lettre écrite par Mitya au cabaret à la capitale, qu'Ivan considérait comme une preuve catégorique. Hélas, ce fut l'effet qu'elle produisit. Sans cette lettre, Mitya n'aurait peut-être pas été condamné, du moins pas si rigoureusement. Encore un coup, il était difficile de suivre les détails. Même à présent, tout cela m'apparaît dans un brouhaha. Le président fit sans doute part de ce nouveau document au parti et au jury. Comme il demandait à Catherine Ivanovna si elle était remise, elle répondit vivement « Je suis prête, je suis tout à fait en état de vous répondre. » Elle craignait encore qu'on ne l'écoutât point. On la pria d'expliquer en détail dans quelles circonstances elle avait reçu cette lettre. « Je l'ai reçue la veille du crime, elle venait du cabaret, écrite sur une facture, regardez » cria-t-elle haletante. Il me haïssait alors, ayant eu la bassesse de suivre cette créature, et aussi parce qu'il me devait ses 3000 roubles. Sa vilenie et cette dette lui faisaient honte. Voici ce qui s'est passé. Je vous supplie de m'écouter. 3 semaines avant de tuer son père, il vint chez moi un matin. Je savais qu'il avait besoin d'argent. Et pourquoi? Précisément pour séduire cette créature et l'emmener avec lui. Je connaissais sa trahison, son intention de m'abandonner. Et je lui remis moi-même cet argent, sous prétexte de l'envoyer à ma sœur à Moscou. En même temps, je le regardai en face et lui dis qu'il pouvait l'envoyer quand il voudrait, même dans un mois. Comment n'a-t-il pas compris que cela signifiait « Il te faut de l'argent pour me trahir, en voici, c'est moi qui te le donne. Prends si tu en as le courage. » Je voulais le confondre. Eh bien, il a pris cet argent. Il l'a emporté et gaspillé en une nuit avec cette créature. Pourtant, il avait compris que je savais tout, je vous assure, et que je le lui donnais uniquement pour l'éprouver, pour voir s'il aurait l'infamie de l'accepter. Nos regards se croisaient, il a tout compris, et il est parti avec mon argent. « C'est vrai, Katia !» s'écria Mitya. « J'avais compris ton intention. Pourtant, j'ai accepté ton argent. Mépriser tous un misérable, je l'ai mérité. » Accusé, dit le président. Encore un mot et je vous fais sortir de la salle. Cet argent l'a tracassé, reprit Katia avec précipitation. Il voulait me le rendre, mais il lui en fallait pour cette créature. Voilà pourquoi il a tué son père. Mais il ne m'a rien rendu. Il est parti avec elle dans ce village où on l'a arrêté. C'est là qu'il a de nouveau fait la fête, avec l'argent volé. Un jour avant le crime, il m'a écrit cette lettre, étant ivre, je l'ai deviné aussitôt, sous l'empire de la colère, et persuadé que je ne la montrerais à personne, même s'il assassinait. Sinon, il ne l'aurait pas écrite. Il savait que je ne voulais pas le perdre par vengeance. Mais lisez, lisez avec attention, je vous en prie. Vous verrez qu'il décrit tout à l'avance. Comment il tuera son père, où est caché l'argent. Notez surtout cette phrase. « Je tuerai dès qu'Ivan sera parti. » Par conséquent, il a prémédité son crime, insinua perfidement Catherine Ivanovna. On voyait qu'elle avait étudié chaque détail de cette lettre fatale. « À jeun, il ne m'aurait pas écrit. Mais voyez, cette lettre constitue un programme. » Dans son exaltation, elle faisait fi des conséquences possibles, bien qu'elle les eût envisagées peut-être un mois auparavant, quand elle se demandait, tremblante de colère, « Faut-il lire ceci au tribunal ?» Maintenant, elle avait brûlé ses vaisseaux. C'est alors que le greffier donna lecture de la lettre, qui produisit une impression accablante. On demanda à Mitya s'il la reconnaissait. « Oui, oui, et je ne l'aurais pas écrite si je n'avais pas bu. Nous nous haïssons pour bien des causes, Katia, mais je te jure que malgré ma haine, je t'aimais, et que tu ne m'aimais pas. » Il retomba sur son banc en se tordant les mains. Le procureur et l'avocat demandèrent à tour de rôle à Catherine Ivanovna pour quel motif elle avait d'abord dissimulé ce document et déposé dans un tout autre esprit. « Oui, j'ai menti tout à l'heure, contre mon honneur et ma conscience, mais je voulais le sauver, précisément parce qu'il me haïssait et me méprisait. Oh, il me méprisait. Il m'a toujours méprisé, dès l'instant où je l'ai salué jusqu'à terre à cause de cet argent. Je l'ai senti aussitôt, mais je fus longtemps sans le croire. Que de fois j'ai lu dans ses yeux « Tu es pourtant venu toi-même chez moi ». Oh, il n'avait rien compris. Il n'a pas deviné pourquoi j'étais venue. Il ne peut soupçonner que la bassesse. Il juge tous les autres d'après lui, dit avec fureur Katia au comble de l'exaltation. Il voulait m'épouser seulement pour mon héritage. Rien que pour cela, je m'en suis toujours douté. C'est un fauve. Il était sûr que toute ma vie je tremblerais de honte devant lui et qu'il pourrait me mépriser et avoir le dessus. Voilà pourquoi il voulait m'épouser. C'est la vérité. J'ai essayé de le vaincre par un amour infini. Je voulais même oublier sa trahison. Mais il n'a rien compris. Rien, rien. Peut-il comprendre quelque chose? C'est un monstre. Je n'ai reçu cette lettre que le lendemain soir. On me l'a apportée du cabaret. Et le matin encore, j'étais décidée à lui pardonner tout, même sa trahison. Le procureur et le président la calmèrent de leur mieux. Je suis sûre qu'eux-mêmes avaient peut-être honte de profiter de son exaltation pour recueillir de tels aveux. On les entendit lui dire « Nous comprenons votre peine, nous sommes capables de compatir », etc. Pourtant, ils arrachaient cette déposition à une femme affolée, en proie à une crise de nerfs. Enfin, avec une lucidité extraordinaire, comme il arrive fréquemment en pareil cas, elle décrivit comment s'était détraquée, dans ces 2 mois, la raison d'Ivan Fiodorovitch, obsédé par l'idée de sauver le monstre et l'assassin, son frère. « Il se tourmentait !» s'exclama-t-elle. « Il voulait atténuer la faute, en m'avouant que lui-même n'aimait pas son père et avait peut-être désiré sa mort. » Oh, c'est une conscience d'élite. Voilà la cause de ses souffrances. Il n'avait pas de secret pour moi. Il venait me voir tous les jours, comme sa seule amie. J'ai l'honneur d'être sa seule amie, dit-elle d'un ton de défi, les yeux brillants. Il est allé 2 fois chez Smerdiakov. Un jour, il vint me dire « Si ce n'est pas mon frère qui a tué, si c'est Smerdiakov, car on a répandu cette légende, peut-être suis-je aussi coupable, car Smerdiakov savait que je n'aimais pas mon père et pensait peut-être que je désirais sa mort. » C'est alors que je lui ai montré cette lettre. Il fut définitivement convaincu de la culpabilité de son frère. Il était atterré. Il ne pouvait supporter l'idée que son propre frère fût un parricide. Depuis 1 semaine, ça le rend malade. Ces derniers jours, il avait le délire. J'ai constaté que sa raison se troublait. On l'a entendu divaguer dans les rues. Le médecin que j'ai fait venir de Moscou l'a examiné avant-hier et m'a dit que la fièvre chaude allait se déclarer. Et tout cela à cause du monstre. Hier, il a appris la mort de Smerdiakov. Ça lui a porté le dernier coup. Tout cela à cause de ce monstre et afin de le sauver. Assurément, on ne peut parler ainsi et faire de tels aveux qu'une fois dans la vie, à ses derniers moments, par exemple, en montant à l'échafaud. Mais cela convenait précisément au caractère de Katia. C'était bien la même jeune fille impétueuse qui avait couru chez un jeune libertin pour sauver son père. La même qui, tout à l'heure, fière et chaste, avait publiquement sacrifié sa pudeur virginale en racontant la noble action de Mitya, dans le seul dessein d'adoucir le sort qui l'attendait. Et maintenant, elle se sacrifiait tout de même, mais pour un autre, ayant peut-être, à cet instant seulement, senti pour la première fois combien cet autre lui était cher. Elle se sacrifiait pour lui dans son effroi, s'imaginant soudain qu'il se perdait par sa déposition, qu'il avait tué au lieu de son frère. Elle se sacrifiait afin de le sauver, lui et sa réputation. Une question angoissante se posait. Avait-elle calomnié Mitya au sujet de leurs anciennes relations? Non, elle ne mentait pas sciemment en criant que Mitya la méprisait pour ce salut jusqu'à terre. Elle le croyait. Elle était profondément convaincue, depuis ce salut peut-être, que le naïf Mitya, qu'il adorait encore à ce moment, se moquait d'elle et la méprisait. et seulement par fierté, elle s'était prise pour lui d'un amour outré, par fierté blessée. Et cet amour ressemblait à une vengeance. Peut-être cet amour outré serait-il devenu un amour véritable. Peut-être Katia ne demandait-elle pas mieux. Mais Mitya l'avait offensée jusqu'au fond de l'âme par sa trahison, et cette âme ne pardonnait pas. L'heure de la vengeance avait sonné brusquement, et toute la rancune douloureuse, accumulée dans le cœur de la femme offensée, s'était exhalée d'un seul coup. En livrant Mitya, elle se livrait elle-même. Dès qu'elle eut achevé, ses nerfs la trahirent, la honte l'envahit. Elle eut une nouvelle crise de nerfs, il fallut l'emporter. À ce moment, Krushenka s'élança en criant vers Mitya, si rapidement qu'on n'eut pas le temps de la retenir. « Mitya, cette vipère t'a perdue! Vous l'avez vue à l'œuvre !» ajouta-t-elle frémissante en s'adressant au juge. Sur un signe du président, on la saisit et on l'emmena. Elle se débattait en tendant les bras à Mitya. Celui-ci poussa un cri, voulut s'élancer vers elle. On le maîtrisa sans peine. Je pense que les spectatrices demeurèrent satisfaites. Le spectacle en valait la peine. Le médecin de Moscou, que le président avait envoyé chercher pour soigner Ivan, vint faire son rapport. Il déclara que le malade traversait une crise des plus dangereuses, qu'on devait l'emmener immédiatement. L'avant-veille, le patient était venu le consulter, mais avait refusé de se soigner, malgré la gravité de son état. Il m'avoua qu'il avait des hallucinations, qu'il rencontrait des morts dans la rue, que Satan lui rendait visite tous les soirs, conclut le fameux spécialiste. La lettre de Catherine Ivanovna fut ajoutée aux pièces à conviction. La cour, en ayant délibéré, décida de poursuivre les débats et de mentionner au procès-verbal les dépositions inattendues de Catherine Ivanovna et d'Ivan Fiodorovitch. Les dépositions des derniers témoins ne firent que confirmer les précédentes, mais avec certains détails caractéristiques. D'ailleurs, le réquisitoire, auquel nous arrivons, les résume toutes. Les derniers incidents avaient surexcité les esprits. On attendait avec une impatience fiévreuse les discours et le verdict. Les révélations de Catherine Ivanovna avaient atterré Fetioukovitch. En revanche, le procureur triomphait. Il y eut une suspension d'audience qui dura environ une heure. À 8 heures précises, je crois, le procureur commença son réquisitoire. Chapitre 6. Le réquisitoire. Caractéristiques. Hippolyte Kirillovitch prit la parole avec un tremblement nerveux, le front et les tempes baignés d'une sueur froide, le corps parcouru de frissons, comme il le raconta ensuite. Il regardait ce discours comme son chef-d'œuvre, son chant du cygne, et mourut poitrinaire 9 mois plus tard, justifiant ainsi cette comparaison. Il y mit tout son cœur et toute l'intelligence dont il était capable, dévoilant un sens civique inattendu et de l'intérêt pour les questions brûlantes. Il séduisit surtout par la sincérité. Il croyait réellement à la culpabilité de l'accusé et ne requérait pas seulement par ordre, en vertu de ses fonctions, mais animé du désir de sauver la société. Même les dames, pourtant hostiles à Hippolyte Kirillovitch, convinrent de la vive impression qu'il avait produite. Il commença d'une voix saccadée, qui s'affermit bientôt, et résonna dans la salle entière, jusqu'à la fin. Mais à peine avait-il achevé son réquisitoire, qu'il faillit s'évanouir. « Messieurs les jurés, cette affaire a eu du retentissement dans toute la Russie. Au fond, avons-nous lieu d'être surpris, de nous épouvanter ? Ne sommes-nous pas habitués à toutes ces choses ? Ces affaires sinistres ne nous émeuvent presque plus, hélas. C'est notre apathie, messieurs, qui doit faire horreur, et non le forfait de tel ou tel individu. D'où vient que nous réagissons si faiblement devant des phénomènes qui nous présagent un sombre avenir ? Faut-il attribuer cette indifférence au cynisme ? à l'épuisement précoce de la raison et de l'imagination de notre société, si jeune encore, mais déjà débile, au bouleversement de nos principes moraux ou à l'absence totale de ces principes. Je laisse en suspens ces questions, qui n'en sont pas moins angoissantes et sollicitent l'attention de chaque citoyen. Notre presse, au début si timide encore, a pourtant rendu quelques services à la société, car sans elle, nous ne connaîtrions pas la licence effrénée et la démoralisation qu'elle révèle sans cesse à tous, et non aux seuls visiteurs des audiences devenues publiques sous le présent règne. Et que lisons-nous dans les journaux? Oh, des atrocités, devant lesquelles l'affaire actuelle elle-même pâlit et paraît presque banale. La plupart de nos causes criminelles attestent une sorte de perversité générale, entrée dans nos mœurs, et difficile à combattre en tant que fléau social. Ici, c'est un jeune et brillant officier de la haute classe qui assassine sans remords un modeste fonctionnaire dont il était l'obligé, et sa servante, afin de reprendre une reconnaissance de dette. Et il vole en même temps l'argent. Cela servira à mes plaisirs. Son crime accompli, il s'en va, après avoir mis un oreiller sous la tête des victimes. Ailleurs, un jeune héros, décoré par sa bravoure, égorge comme un brigand sur la grande route la mère de son chef, et, pour persuader ses complices, leur assure que cette femme l'aime comme un fils, qu'elle se fie à lui, et par conséquent ne prendra pas de précautions. Ce sont des monstres, mais je n'ose dire qu'il s'agisse de cas isolés. Un autre, sans aller jusqu'au crime, pense de même et tout aussi infâme dans son fort intérieur. En tête à tête avec sa conscience, il se demande peut-être « L'honneur n'est-il pas un préjugé ? On m'objectera que je calomnie notre société, que je déraisonne, que j'exagère. Soit, je ne demanderai pas mieux que de me tromper. Ne me croyez pas, considérez-moi comme un malade. Mais rappelez-vous mes paroles. Même si je ne dis que la 20e partie de la vérité, c'est à faire frémir. Regardez combien il y a de suicides parmi les jeunes gens. Et ils se tuent sans se demander, comme Hamlet, ce qu'il y aura ensuite. La question de l'immortalité de l'âme, de la vie future, n'existe pas pour eux. Voyez notre corruption, nos débauchés. Fyodor Pavlovitch, la malheureuse victime de cette affaire, paraît un enfant innocent à côté d'eux. Or, nous l'avons tous connu, il vivait parmi nous. Oui, la psychologie du crime, en Russie, sera peut-être étudiée un jour par des esprits éminents, tant chez nous qu'en Europe, car le sujet en vaut la peine. Mais cette étude aura lieu après coup, à loisir, quand l'incohérence tragique de l'heure actuelle, n'étant plus qu'un souvenir, pourra être analysée plus impartialement que je ne suis capable de le faire. Pour le moment, nous nous effrayons, ou nous feignons de nous effrayer, tout en savourant ce spectacle, ces sensations fortes qui secouent notre cynique oisiveté. Ou bien nous nous cachons, comme des enfants, la tête sous l'oreiller à la vue de ces fantômes qui passent, pour les oublier ensuite dans la joie et dans les plaisirs. Mais un jour ou l'autre, il faudra réfléchir, faire notre examen de conscience, nous rendre compte de notre état social. À la fin d'un de ses chefs-d'œuvre, un grand écrivain de la période précédente, comparant la Russie à une fougueuse troïka qui galope vers un but inconnu, s'écrie « Ah, troïka, rapide comme l'oiseau, qui donc t'a inventé ?» Et dans un élan d'enthousiasme, il ajoute que devant cette troïka emportée, tous les peuples s'écartent respectueusement. Soit, messieurs, je le veux bien, mais à mon humble avis, le génial artiste a cédé à un accès d'idéalisme naïf, à moins que peut-être il n'ait craint la censure de l'époque. Car, en attelant que ses héros à sa troïka, les Sabakevitch, les Nozdriov, les Tchitchikov, quel que soit le voiturier, Dieu sait où nous mènerait de pareils coursiers. Et ce sont là les coursiers d'autrefois. Nous avons mieux encore. Ici, le discours d'Hippolyte Kirillovitch fut interrompu par des applaudissements. le libéralisme du symbole de la troïka russe plut. À vrai dire, les applaudissements furent clairsemés, de sorte que le président ne jugea même pas nécessaire de menacer le public de faire évacuer la salle. Pourtant, Hippolyte Kirillovitch fut réconforté. On ne l'avait jamais applaudi. On avait refusé de l'écouter durant tant d'années, et tout à coup, il pouvait se faire entendre de toute la Russie. Qu'est-ce donc que cette famille Karamazov, qui a acquis soudain une si triste célébrité? J'exagère peut-être, mais il me semble qu'elle résume certains traits fondamentaux de notre société contemporaine, à l'état microscopique, comme une goutte d'eau résume le soleil. Voyez ce vieillard débauché, ce père de famille qui a fini si tristement. Gentilhomme de naissance, mais ayant débuté dans la vie comme chétif parasite, un mariage imprévu lui procure un petit capital. D'abord vulgaire fripon et bouffon obséquieux, c'est avant tout un usurier. Avec le temps, à mesure qu'il s'enrichit, il prend de l'assurance. L'humilité et la flagornerie disparaissent. Il ne reste qu'un cynique méchant et railleur, un débauché. Nul sens moral, une soif de vivre inextinguible. À part les plaisirs sensuels, rien n'existe. Voilà ce qu'il enseigne à ses enfants. En tant que père, il ne reconnaît aucune obligation morale. Il s'en moque, laisse ses jeunes enfants aux mains des domestiques et se réjouit quand on les emmène. Il les oublie même totalement. Toute sa morale se résume dans ce mot. Après moi, le déluge. C'est le contraire d'un citoyen. Il se détache complètement de la société. Périsse le monde, pourvu que je me trouve bien, moi seul. Et il se trouve bien. Il est tout à fait content. Il veut mener cette vie encore 20 ou 30 ans. Il frustre son fils, et avec son argent, l'héritage de sa mère qu'il refuse de lui remettre, il cherche à lui souffler sa maîtresse. Non, je ne veux pas abandonner la défense de l'accusé à l'éminent avocat venu de Pétersbourg. Moi aussi, je dirai la vérité. Moi aussi, je comprends l'indignation accumulée dans le cœur de ce fils. Mais assez sur ce malheureux vieillard. Il a reçu sa rétribution. Rappelons-nous pourtant que c'était un père, et un père moderne. Est-ce calomnier la société que de dire qu'il y en a beaucoup comme lui ? Hélas, la plupart d'entre eux ne s'expriment pas avec autant de cynisme, car ils sont mieux élevés, plus instruits, mais au fond, ils ont la même philosophie. Admettons que je sois pessimiste. Il est entendu que vous me pardonnerez. Ne me croyez pas, mais laissez-moi m'expliquer. Vous vous rappellerez certaines de mes paroles. Voyons les fils de cet homme. L'un est devant nous, au banc des accusés. Je serai bref sur les autres. L'aîné de ceux-ci est un jeune homme moderne, fort instruit et fort intelligent, qui ne croit à rien pourtant et a déjà renié bien des choses, comme son père. Nous l'avons tous entendu. Il était reçu amicalement dans notre société. Il ne cachait pas ses opinions, bien au contraire, ce qui m'enhardit à parler maintenant de lui avec quelque franchise, tout en ne l'envisageant qu'en tant que membre de la famille Karamazov. Hier, tout au bout de la ville, s'est suicidé un malheureux idiot, impliqué étroitement dans cette affaire, ancien domestique et peut-être fils naturel de Fiodor Pavlovitch, Smerdiakov. Il m'a raconté en larmoyant, à l'instruction, que ce jeune Karamazov, Ivan Fiodorovitch, l'avait épouvanté par son nihilisme moral. D'après lui, tout est permis et rien dorénavant ne doit être défendu. Voilà ce qu'il m'enseignait. Cette doctrine a dû achever de déranger l'esprit de l'idiot, bien qu'assurément sa maladie et le terrible drame survenu dans la maison lui aient aussi troublé le cerveau. Mais cet idiot est l'auteur d'une remarque qui eût fait honneur à un observateur plus intelligent. Voilà pourquoi j'ai parlé de lui. « S'il y a, m'a-t-il dit, un des fils de Fiodor Pavlovitch qui lui ressemble davantage par le caractère, c'est Ivan Fiodorovitch. » Sur cette remarque, j'interromps ma caractéristique, estimant qu'il serait indélicat de continuer. Oh, je ne veux pas tirer des conclusions et pronostiquer uniquement la ruine à cette jeune destinée. Nous avons vu aujourd'hui que la vérité est encore puissante dans son jeune cœur, que les sentiments familiaux ne sont pas encore étouffés en lui par l'irreligion et le cynisme des idées, inspirés davantage par l'hérédité que par la véritable souffrance morale. Le plus jeune, encore adolescent, est pieux et modeste. À l'inverse de la doctrine sombre et dissolvante de son frère, il se rapproche des principes populistes, ou de ce qu'on appelle ainsi dans certains milieux intellectuels. Il s'est attaché à notre monastère, a même failli prendre l'habit. Il incarne, me semble-t-il, inconsciemment, le fatal désespoir qui pousse une foule de gens dans notre malheureuse société, par crainte du cynisme corrupteur et parce qu'ils attribuent faussement tous nos maux à la culture occidentale, à retourner, comme ils disent, au sol natal, à se jeter, pour ainsi parler, dans les bras de la terre natale, comme des enfants effrayés par les fantômes se réfugient sur le sein tari de leur mère pour s'endormir tranquillement et échapper aux visions qui les épouvantent. Quant à moi, je forme les meilleurs vœux pour cet adolescent si bien doué. Je souhaite que ses nobles sentiments et ses aspirations vers les principes populistes ne dégénèrent pas par la suite, comme il arrive fréquemment, en un sombre mysticisme au point de vue moral, en un stupide chauvinisme au point de vue civique. Deux idéaux qui menacent la nation de maux encore plus graves, peut-être, que cette perversion précoce, provenant d'une fausse compréhension de la culture occidentale dont souffre son frère. Le chauvinisme et le mysticisme recueillirent quelques applaudissements. Sans doute, Hippolyte Kirillovitch s'était laissé entraîner, et toutes ses divagations ne cadraient guère avec l'affaire. Mais ce poitrinaire aigri avait trop envie de se faire entendre, au moins une fois dans sa vie. On raconta ensuite qu'en faisant d'Ivan Fiodorovitch un portrait tiré au noir, il avait obéi à un sentiment peu délicat. Battu une ou deux fois par celui-ci dans des discussions en public, il voulait maintenant se venger. J'ignore si cette assertion était justifiée. D'ailleurs, tout cela n'était qu'une simple entrée en matière. Le troisième fils de cette famille moderne est sur le banc des accusés. Sa vie et ses exploits se déroulent devant nous. L'heure est venue où tout s'étale au grand jour. À l'inverse de ses frères, dont l'un est un occidentaliste et l'autre un populiste, il représente la Russie à l'état naturel. Mais, Dieu merci, pas dans son intégrité. Et pourtant, la voici, notre Russie. On la sent, on l'entend en lui, la chère petite mère. Il y a en nous un étonnant alliage de bien et de mal. Nous aimons Schiller et la civilisation, mais nous faisons du tapage dans les cabarets et nous traînons par la barbe nos compagnons d'ivresse. Il nous arrive d'être excellents, mais seulement lorsque tout va bien pour nous. Nous nous enflammons pour les plus nobles idéales, à condition de les atteindre sans peine et que cela ne nous coûte rien. Nous n'aimons pas à payer, mais nous aimons beaucoup à recevoir. Faites-nous la vie heureuse, donnez-nous les coups des franches, et vous verrez comme nous serons gentils. Nous ne sommes pas avides, certes, mais donnez-nous le plus d'argent possible, et vous verrez avec quel mépris pour le vil métal nous le dissiperons en une nuit d'orgie. Et si l'on nous refuse l'argent, nous montrerons comment nous savons nous en procurer au besoin. Mais procédons par ordre. Nous voyons d'abord le pauvre enfant abandonné, nu-pied dans l'arrière-cour, selon l'expression de notre respectable concitoyen, d'origine étrangère, hélas. Encore un coup, je n'abandonne à personne la défense du prévenu. Je suis à la fois son accusateur et son avocat. Nous sommes humains, que diantre, et apprécions comme il sied l'influence des premières impressions d'enfance sur le caractère. Mais l'enfant devient un jeune homme. Le voici officier. Ses violences et une provocation en duel le font exiler dans une ville frontière. Naturellement, il fait la fête, mène la vie à grande guide. Il a surtout besoin d'argent. Et après de longues discussions, transige avec son père pour 6 000 roubles. Il existe, remarquez-le bien, une lettre de lui où il renonce presque au reste et termine, pour cette somme, le différend au sujet de l'héritage. C'est alors qu'il fait la connaissance d'une jeune fille cultivée et d'un très noble caractère. Je n'entrerai pas dans les détails, vous venez de les entendre. Il s'agit d'honneur et d'abnégation. Je me tais. L'image du jeune homme frivole et corrompu, mais s'inclinant devant la véritable noblesse, devant une idée supérieure, nous est apparue des plus sympathiques. Mais ensuite, dans cette même salle, on nous a montré le revers de la médaille. Je n'ose pas me lancer dans des conjectures et je m'abstiens d'analyser les causes. Ces causes n'en existent pas moins. Cette même personne, avec les larmes d'une indignation longtemps refoulée, nous déclare qu'il l'a méprisée pour son élan imprudent, impétueux peut-être, mais noble et généreux. Devenu son fiancé, il a eu pour elle un sourire railleur, qu'elle aurait peut-être supporté d'un autre, mais pas de lui. Sachant qu'il l'a trahi, car il pensait pouvoir tout se permettre à l'avenir, même la trahison. Sachant cela, elle lui remet 3 000 roubles en lui donnant à entendre clairement qu'elle devine ses intentions. « Eh bien, les prendras-tu, oui ou non? En auras-tu le courage ?» lui dit son regard pénétrant. Il la regarde, comprend parfaitement sa pensée, lui-même l'a avoué devant vous. Puis il s'approprie ses 3 000 roubles et les dépense en 2 jours avec son nouvel amour. Que croire? La première légende, le noble sacrifice de ses dernières ressources et l'hommage à la vertu, ou le revers de la médaille, la bassesse de cette conduite? Dans les cas ordinaires, il convient de chercher la vérité entre les extrêmes. Ce n'est pas le cas ici. Très probablement, il s'est montré aussi noble la première fois que vil la seconde. Pourquoi? Parce que nous sommes une nature large, un Karamazov, voilà où je veux en venir, capable de réunir tous les contrastes et de contempler à la fois 2 abîmes, celui d'en haut, l'abîme des sublimes idéales, et celui d'en bas, l'abîme de la plus ignoble dégradation. Rappelez-vous la brillante idée formulée tout à l'heure par M. Rakitin, le jeune observateur, qui a étudié de près toute la famille Karamazov. La conscience de la dégradation est aussi indispensable à ces natures effrénées que la conscience de la noblesse morale. Rien n'est plus vrai. Ce mélange contre nature leur est constamment nécessaire. 2 abîmes, messieurs, 2 abîmes simultanément. Sinon, nous ne sommes pas satisfaits. Il manque quelque chose à notre existence. Nous sommes larges, larges, comme notre mère la Russie, nous nous accommodons de tout. À propos, messieurs les jurés, nous venons de parler de ces 3 000 roubles, et je me permets d'anticiper un peu. Imaginez-vous qu'avec ce caractère, ayant reçu cet argent au prix d'une telle honte, de la dernière humiliation, imaginez-vous que le jour même il ait pu soi-disant distraire la moitié, la coudre dans un sachet, et avoir ensuite la constance de la porter tout un mois sur la poitrine, malgré la gêne et les tentations. Ni lors de ses orgies dans les cabarets, ni lorsqu'il lui fallut quitter la ville pour se procurer chez Dieu sait qui l'argent nécessaire, afin de soustraire sa bien-aimée aux séductions de son père, de son rival, il n'ose toucher à cette réserve, ne fût-ce que pour ne pas laisser son ami exposé aux intrigues du vieillard dont il était si jaloux. Il aurait dû défaire son sachet et monter la garde autour d'elle, attendant le moment où elle lui dirait « Je suis à toi » pour l'emmener loin de ce fatal milieu. Mais non, il n'a pas recours à son talisman. Et sous quel prétexte? Le premier prétexte, nous l'avons dit, était qu'il lui fallait de l'argent au cas où son ami voudrait partir avec lui. Mais ce premier prétexte, d'après les propres paroles de l'accusé, a fait place à un autre. « Tant, dit-il, que je porte cet argent sur moi, je suis un misérable, mais non un voleur. Car je puis toujours aller trouver ma fiancée, et en lui présentant la moitié de la somme que je me suis frauduleusement appropriée, lui dire « Tu vois, j'ai dissipé la moitié de ton argent et prouvé que je suis un homme faible et sans conscience, et, si tu veux, un misérable. J'emploie les termes de l'accusé. Mais non un voleur, car alors je ne t'aurais pas rapporté cette moitié. Je me la serais appropriée comme la première. Singulière explication. Ce forcené sans caractère, qui n'a pu résister à la tentation d'accepter 3 000 roubles dans des conditions aussi honteuses, fait preuve soudain d'une fermeté stoïque et porte 1 000 roubles à son cou sans oser y toucher. Cela cadre-t-il avec le caractère que nous avons analysé? Non. Et je me permets de vous raconter comment le vrai Dmitri Karamazov aurait procédé s'il s'était vraiment décidé à coudre son argent dans un sachet. À la première tentation, ne fût-ce que pour faire plaisir à sa dulcinée, avec laquelle il avait déjà dépensé la moitié de l'argent, il aurait décousu le sachet et prélevé, mettons, 100 roubles pour la première fois, car à quoi bon rapporter nécessairement la moitié? 1 400 roubles suffisent. Je suis un misérable et non un voleur, car je rendrai 1 400 roubles. Un voleur eût tout gardé. Quelque temps après, il aurait retiré un second billet, puis un troisième, et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernier, à la fin du mois. Je suis un misérable, mais non un voleur. J'ai dépensé 29 billets. Je restituerai le 30e. Un voleur n'agirait pas ainsi. Mais cet avant-dernier billet disparut à son tour. Il aurait regardé le dernier en se disant « Ce n'est plus la peine, dépensons celui-là comme les autres ». Voilà comment aurait procédé le véritable Dmitri Karamazov, tel que nous le connaissons. Quant à la légende du sachet, elle est en contradiction absolue avec la réalité. On peut tout supposer, excepté cela. Mais nous y reviendrons. Après avoir exposé dans l'ordre tout ce que l'instruction connaissait des discussions d'intérêts et des rapports du père et du fils, en concluant de nouveau qu'il était tout à fait impossible d'établir, au sujet de la division de l'héritage, lequel avait fait tort à l'autre, Hippolyte Kirillovitch, à propos de ces 3 000 roubles devenus une idée fixe dans l'esprit de Mitya, rappela l'expertise médicale. Chapitre 7. Aperçu historique. L'expertise médicale a voulu nous prouver que l'accusé n'a pas toute sa raison, que c'est un maniaque. Je soutiens qu'il a sa raison, mais que c'est un malheur pour lui, car s'il ne l'avait pas, il aurait peut-être fait preuve de plus d'intelligence. Je le reconnaîtrais volontiers pour maniaque, mais sur un point seulement, signalé par l'expertise. Sa manière de voir au sujet de ces 3 000 roubles dont son père l'aurait frustré. Néanmoins, son exaspération à ce propos peut s'expliquer beaucoup plus simplement que par une propension à la folie. Je partage entièrement l'opinion du jeune praticien, selon lequel l'accusé jouit et jouissait de toutes ses facultés, n'était qu'exagéré et aigri. J'estime que ces 3 000 roubles ne faisaient pas l'objet de sa constante exaltation, qu'une autre cause excitait sa colère. Cette cause, c'est la jalousie. Ici, Hippolyte Kirillovitch s'étendit sur la fatale passion de l'accusé pour Grushenka. Il commença au moment où l'accusé s'était rendu chez la jeune personne pour « la battre », suivant son expression. Mais au lieu de cela, il resta à ses pieds. Ce fut le début de cet amour. En même temps, cette personne est remarquée par le père de l'accusé. Coïncidence fatale et surprenante, car ces deux cœurs s'enflammèrent à la fois d'une passion effrénée, en vrai Karamazov, bien qu'ils connussent auparavant la jeune femme. Nous possédons l'aveu de celle-ci. « Je me jouais, » dit-elle, « de l'un et de l'autre. » Oui, cette intention lui vint tout à coup à l'esprit, et finalement, les deux hommes furent ensorcelés par elle. Le vieillard, qui adorait l'argent, prépara 3 000 roubles, seulement pour qu'elle vînt chez lui. Et bientôt, il en arriva à s'estimer heureux si elle consentait à l'épouser. Nous avons des témoignages formels à cet égard. Quant à l'accusé, nous connaissons la tragédie qu'il a vécue. Mais tel était le « jeu » de la jeune personne. Cette sirène n'a donné aucun espoir au malheureux, si ce n'est au dernier moment, alors que, à genoux devant elle, il lui tendait les bras. « Envoyez-moi au bagne avec lui, c'est moi qui l'ai poussé, je suis la coupable. » criait-elle avec un sincère repentir lors de l'arrestation. Monsieur Rakitine, le jeune homme de talent que j'ai déjà cité et qui a entrepris de décrire cette affaire, définit en quelques phrases concises le caractère de l'héroïne. Un désenchantement précoce, la trahison et l'abandon du fiancé qui l'avait séduite, puis la pauvreté, la malédiction d'une honnête famille, enfin la protection d'un riche vieillard, que d'ailleurs elle regarde encore comme son bienfaiteur. Dans ce jeune cœur, peut-être enclin au bien, la colère s'est amassée. Elle est devenue calculatrice, elle aime à thésauriser. Elle se raille de la société et lui garde rancune. Cela explique qu'elle ait pu se jouer de l'un et de l'autre par méchanceté pure. Durant ce mois où l'accusé aime sans espoir, dégradé par sa trahison et sa malhonnêteté, il est en outre affolé, exaspéré par une jalousie incessante envers son père. Et pour comble, le vieillard insensé s'efforce de séduire l'objet de sa passion au moyen de ses 3 000 roubles que son fils lui réclame comme l'héritage de sa mère. Oui, je conviens que la pilule est amère. Il y avait de quoi devenir maniaque. Et ce n'était pas l'argent qui importait, mais le cynisme répugnant qui conspirait contre son bonheur avec cet argent même. Ensuite, Hippolyte Kirillovitch aborda la genèse du crime dans l'esprit de l'accusé en s'appuyant sur les faits. D'abord, nous nous bornons à brailler dans les cabarets durant tout ce mois. Nous exprimons volontiers tout ce qui nous passe par la tête, même les idées les plus subversives. Nous sommes expansifs, mais, on ne sait pourquoi, nous exigeons que nos auditeurs nous témoignent une entière sympathie, prennent part à nos peines, fassent chorus, ne nous gênent en rien. Sinon, gare à eux. Suivait l'anecdote du capitaine Snegiryov. Ceux qui ont vu et entendu l'accusé durant ce mois eurent finalement l'impression qu'il ne s'en tiendrait pas à de simples menaces contre son père, et que, dans son exaspération, il était capable de les réaliser. Ici, le procureur décrivit la réunion de famille au monastère, les conversations avec Alyosha et la scène scandaleuse chez Fiodor Pavlovitch, chez qui l'accusé avait fait irruption après dîner. « Je ne suis pas sûr, » poursuivit Hippolyte Kirillovitch, « qu'avant cette scène, l'accusé eût déjà résolu de supprimer son père. Mais cette idée lui était déjà venue. Les faits, les témoins et son propre aveu le prouvent. J'avoue, messieurs les jurés, que jusqu'à ce jour, j'hésitais à croire à la préméditation complète. J'étais persuadé qu'il avait envisagé à plusieurs reprises ce moment fatal, mais sans préciser la date et les circonstances de l'exécution. Mon hésitation a cessé en présence de ce document accablant, communiqué aujourd'hui au tribunal par Mademoiselle Verkhovtsev. Vous avez entendu, monsieur, son exclamation. C'est le plan, le programme de l'assassinat. Voilà comment elle a défini cette malheureuse lettre d'ivrogne. En effet, cette lettre établit la préméditation. Elle a été écrite 2 jours avant le crime, et nous savons qu'à ce moment, avant la réalisation de son affreux projet, l'accusé jurait que s'il ne trouvait pas à emprunter le lendemain, il tuerait son père pour prendre l'argent sous son oreiller, dans une enveloppe ficelée d'une faveur rose, dès qu'il vend se répartit. Vous entendez? Dès qu'il vend se répartit. Par conséquent, tout est combiné, et tout s'est passé comme il l'avait écrit. La préméditation ne fait aucun doute. Le crime avait le vol pour mobile. C'est écrit et signé. L'accusé ne renie pas sa signature. On dira, c'est la lettre d'un ivrogne. Cela n'atténue rien. Au contraire, il a écrit, étant ivre, ce qu'il avait combiné à l'état lucide. Sinon, il se serait abstenu d'écrire. Mais, objectera-t-on peut-être, pourquoi a-t-il crié son projet dans les cabarets? Celui qui prémédite un tel acte se tait et garde son secret. C'est vrai, mais alors il n'avait que des velléités. Son intention mûrissait. Par la suite, il s'est montré plus réservé à cet égard. Le soir où il écrivit cette lettre, après s'être enivré au cabaret et à la capitale, il resta silencieux par exception, se tint à l'écart sans jouer au billard, se bornant à houspiller un commis de magasin, mais inconsciemment, cédant à une habitude invétérée. Certes, une fois résolu à agir, l'accusé devait appréhender de s'être trop vanté en public de ses intentions, et que cela pût servir de preuve contre lui quand il exécuterait son plan. Mais que faire? Il ne pouvait rattraper ses paroles, et espérait s'en tirer encore cette fois. Nous nous fions à notre étoile, messieurs. Il faut reconnaître qu'il a fait de grands efforts avant d'en arriver là, et pour éviter un dénouement sanglant. « Je demanderai de l'argent à tout le monde, » écrit-il dans sa langue originale, « et si l'on m'en refuse, le sang coulera. » De nouveau, nous le voyons agir à l'état lucide, comme il l'avait écrit étant ivre. Ici, Hippolyte Kirillovitch décrivit en détail les tentatives de Mitya pour se procurer de l'argent, pour éviter le crime. Il relata ses démarches auprès de Samsonov, sa visite à Liagavi. Éreinté, mystifié, affamé, ayant vendu sa montre pour les frais du voyage, tout en portant 1500 roubles sur lui, soi-disant. Tourmenté par la jalousie au sujet de sa bien-aimée qu'il a laissée en ville, soupçonnant qu'en son absence elle peut aller trouver Fiodor Pavlovitch, il revient enfin. Dieu soit loué, elle n'y a pas été. Lui-même l'accompagne chez son protecteur Samsonov. Chose étrange, nous ne sommes pas jaloux de Samsonov, et c'est là un détail caractéristique. Il court à son poste d'observation, sur les derrières, et là, il apprend que Smerdiakov a eu une crise, que l'autre domestique est malade. Le champ est libre, les signaux sont dans ses mains. Quelle tentation! Néanmoins, il résiste. Il se rend chez une personne respectée de tous, Madame Koklakov. Cette dame, qui compatit depuis longtemps à son sort, lui donne le plus sage des conseils. Renoncer à faire la fête, à cet amour scandaleux, à ces flâneries dans les cabarets, où se gaspille sa jeune énergie, et partir pour les mines d'or en Sibérie. Là-bas est le dérivatif aux forces qui bouillonnent en vous, à votre caractère romanesque, avide d'aventure. Après avoir décrit l'issue de l'entretien, et le moment où l'accusé apprit tout à coup que Grushenka n'était pas restée chez Samsonov, ainsi que la fureur du malheureux jaloux à l'idée qu'elle le trompait et se trouvait maintenant chez Fiodor Pavlovitch, Hippolyte Kirillovitch conclut en faisant remarquer la fatalité de cet incident. Si la domestique avait eu le temps de lui dire que sa dulcinée était à mots croyés avec son premier amant, rien ne serait arrivé. Mais elle était bouleversée. Elle jura si grand Dieu, et si l'accusé ne la tua pas sur place, c'est parce qu'il s'élança à la poursuite de l'infidèle. Mais notez ceci. Tout en étant hors de lui, il s'empare d'un pilon de cuivre. Pourquoi précisément un pilon? Pourquoi pas une autre arme? Mais si nous nous préparons à cette scène envisagée depuis un mois, que quelque chose ressemblant à une arme se présente, nous nous en emparons aussitôt. Depuis un mois, nous nous disions qu'un objet de ce genre peut servir d'arme. Aussi n'avons-nous pas hésité. Par conséquent, l'accusé savait ce qu'il faisait en se saisissant de ce fatal pilon. Le voici dans le jardin de son père, le champ est libre, pas de témoin, une obscurité profonde et la jalousie. Le soupçon qu'elle est ici, dans les bras de son rival, et se moque peut-être de lui à cet instant, s'empare de son esprit. Et non seulement le soupçon, il s'agit bien de cela, la fourberie saute aux yeux. Elle est ici, dans cette chambre où il y a de la lumière. Elle est chez lui, derrière le paravent. Et le malheureux se glisse vers la fenêtre, regarde avec déférence, se résigne et s'en va sagement pour ne pas faire un malheur, pour éviter l'irréparable. Et on veut nous faire croire cela, à nous qui connaissons le caractère de l'accusé, qui comprenons son état d'esprit révélé par les faits, surtout alors qu'il était au courant des signaux permettant de pénétrer aussitôt dans la maison. À ce propos, Hippolyte Kirillovitch abandonna provisoirement l'accusation et jugea nécessaire de s'étendre sur Smerdiakov, afin de liquider l'épisode des soupçons dirigés contre lui et d'en finir une fois pour toutes avec cette idée. Il ne négligea aucun détail, et tout le monde comprit que malgré le dédain qu'il témoignait pour cette hypothèse, il la considérait pourtant comme très importante.